VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Média Dakar, 13h N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Sénégal, ouverture ce lundi à Dakar du procès en appel de l'ex-président Hissène Habré. L'ancien chef d'État tchadien de 1982 à 1990, qui a été condamné à la prison à perpétuité en première instance lors de son procès devant les chambres extraordinaires, les chambres africaines extraordinaires l'an dernier, n'est pas venu à l'audience. M. Habré n'a jamais reconnu cette cour cofinancée par l'Union africaine et plusieurs pays occidentaux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette nouvelle étape judiciaire de l'affaire Habré? Les explications de Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires.
À l'issue de ces différents échanges juridiques entre les différentes parties, le président va suspendre la séance pour permettre à la chambre de délibérer. En principe, le délibéré devrait durer au bas mot 3 mois. Toujours est-il que à la fin du mois d'avril, le jugement définitif devrait être connu de tout le monde.
Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires à Dakar, au Sénégal. Nigeria, au moins 5 soldats tués durant le week-end dans l'attaque d'une base militaire par les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. L'assaut a eu lieu dans la ville de Bouniyadi, à environ 65 kilomètres de Damaturu, la capitale de l'État Yobe. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche et l'attaque a donné lieu à des combats intenses. Selon l'armée, les islamistes se sont probablement regroupés après avoir été chassés par les militaires de la forêt de Sambisa, l'un des derniers bastions de Boko Haram. Nigeria toujours, le gouvernement nigérien reste mobilisé pour parvenir à la libération des jeunes filles enlevées il y a presque 3 ans par Boko Haram dans la localité de Chibok, dans le nord-est du pays. Le président Muhammadu Buhari a fait cette déclaration à l'occasion des 1000 jours de captivité de 195 de ses filles enlevées par Boko Haram. Gabi Dorsil.
Après la libération de 21 des plus de 200 écolières enlevées par le groupe islamiste nigérian en avril 2014, plus rien n'a été dit des autres. Mais pour marquer les 1000 jours de leur captivité, le président Buhari a rappelé la volonté de son gouvernement de tout mettre en œuvre pour que ces 195 otages puissent regagner leur famille. « La douleur est dans nos cœurs », a dit le chef de l'État. À Abuja, des activistes du groupe Bring Back Our Girls, Ramener nos filles, se sont déclarés prêts à marcher jusqu'à la résidence présidentielle. Si la fille du président Buhari avait été enlevée, resterait-il les bras croisés? Ces jeunes filles sont des Nigérianes, tout comme sa propre fille, a dit une représentante du groupe. L'armée nigériane a annoncé jeudi dernier avoir retrouvé une autre lycéenne de Chibok. Si ce dossier a mobilisé l'attention au Nigeria et à travers le monde, il faut se rappeler que Boko Haram a kidnappé des dizaines de milliers de personnes durant ce conflit qui a fait au moins 20 000 morts.
Au Tchad, la nouvelle plateforme dénommée Mouvement pour l'éveil citoyen, MESSI, dérange le MPS, parti au pouvoir, ainsi que le gouvernement tchadien. Résultat, le ministre en charge de l'administration du territoire a interdit toute activité de ce regroupement sur toute l'étendue du territoire. De N'Djamena, plus de détails avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
C'est pour la première fois depuis 1990, date de prise du pouvoir par le président Déby, qu'un regroupement des différentes entités et corporations ayant pour fondement la refondation de la démocratie et des valeurs républicaines a fait bouger les hautes autorités de l'État. Alors qu'Idriss Déby et ses courtisans ont comme slogan « Le chien aboie, la caravane passe ». Mais cette meute de chiens sous la coupe du Messie retient l'attention particulière de la caravane. Car après les sorties médiatiques du MPS, des partis politiques de la majorité présidentielle, et d'une coalition proche du pouvoir dénommée « Touche pas à mes acquis », demandant au gouvernement de prendre ses responsabilités face à ce regroupement, le ministre en charge de l'administration du territoire, Bachar Ali Souleyman, sort de son silence.
Ce regroupement qui s'est fait sans aucune base légale établit un partenariat séditieux avec des organisations dites rebelles dans l'objectif de troubler la paix et l'ordre public interne. Sur la base du droit positif, le ministère en charge de l'administration du territoire effectuera une évaluation de la situation et donnera toutes les suites pénales, administratives et législatives qu'impose cette initiative qui ne saurait être tolérée. En attendant, toute activité de la plateforme dénommée Mouvement d'éveil citoyen est interdite.
Pour Nasra Dimassengar, l'un des porte-parole du Messie, la peur a changé de camp.
Le gouvernement lui-même dit qu'il n'existe pas de mouvement armé au Tchad aujourd'hui. Donc on ne peut pas être de connivence avec un groupe qui n'existe pas. Nous n'allons pas avoir peur d'une déclaration visant à nous intimider. Nous allons continuer nos activités normalement. Que le ministre vienne donc fermer la porte des partis politiques et des associations et tout le monde saura que c'est un retour à la dictature.
Face à ce bras de fer entre le mouvement pour l'éveil citoyen et le régime MPS, voici l'analyse du professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste indépendant et enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
Le problème n'est pas du tout juridique. La question porte sur les fondements de ce regroupement. Le fondement de ce regroupement porte sur les causes et les responsabilités de la crise. Donc ça braque le gouvernement dans une sorte d'accusé. Au lieu de porter sur la recherche de solutions à la crise. Si les uns et les autres s'entêtent, il y aura d'une part un gouvernement qui va mettre toutes les dispositions, notamment sécuritaires. Alors le débat risque d'être tranché dans la rue et c'est ce qui est dommage.
André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan vient de remettre sa démission au président Alassane Ouattara. Plus de détails dans notre prochain bulletin. Le 27e sommet Afrique-France s'ouvre au Mali cette semaine avec la rencontre des jeunes qui sera suivie par celle des chefs d'État. Dans la capitale malienne, les préparatifs du sommet vont bon train, mais plusieurs organisations de la société civile malienne ont organisé des activités contre le sommet. La plus grande a été le Forum des peuples, dont les participants exigent des alternatives pour un nouveau partenariat économique. Par ailleurs, des magistrats maliens entament eux aussi une grève de 7 jours à compter de ce lundi 9 janvier. Aucune de ces manifestations n'empêcheront bien sûr la tenue du sommet Afrique-France au Mali. Le Maroc, sans gouvernement, se réveille ce lundi en mode de crise politique. Pourtant, le Premier ministre marocain Abdelilah Ben Kirane avait suscité des espoirs la semaine dernière en annonçant qu'un cabinet allait être mis en place avec les mêmes partis qui formaient la précédente coalition. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Vendredi, le Premier ministre Ben Kirane s'était montré optimiste quant à la formation de sa nouvelle équipe gouvernementale. Mais tout semble avoir basculé au cours du week-end, car il a annoncé hier soir la fin des négociations avec deux partis qui devaient rejoindre la coalition. Le Rassemblement national des indépendants et le mouvement populaire n'auraient pas agi, selon le souhait du Premier ministre marocain, qui, dans un communiqué laconique, a dit refuser de discuter avec ces deux formations politiques. Le RNI et le MP voulaient négocier de concert avec d'autres groupes qu'Abdelilah Ben Kirane refuse d'inviter dans son futur gouvernement. Son parti, le Parti Justice et Développement, est sorti vainqueur des législatives du 7 octobre et le roi Mohamed VI a reconduit M. Ben Kirane à la primature. Cependant, il n'arrive pas à débloquer la situation après 3 mois de pourparlers avec la classe politique marocaine.
En Égypte, 8 policiers tués aujourd'hui lors d'une attaque qui s'est produite à un point de contrôle routier à El Arish, le chef-lieu de la province du Nord Sinaï. L'attaque, dont la responsabilité n'a pas été revendiquée, a également fait 13 blessés, y compris 4 civils. La péninsule du Sinaï est le théâtre d'une insurrection islamiste qui a gagné en intensité depuis le renversement par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi dans l'été 2013. Les insurgés ont fait allégeance en 2014 au groupe État islamique. Syrie, le président syrien Bachar al-Assad s'est dit déterminé à libérer chaque centimètre carré du territoire syrien. C'est ce qu'il a dit dans une interview à des médias français aujourd'hui. Nous avons la légitimité pour libérer n'importe quelle zone contrôlée par les terroristes, quel que soit le nom qu'ils se donnent, a souligné le président syrien sur la radio privée RTL. Parti d'une révolte populaire en mars 2011, réprimée dans le sang, le conflit en Syrie s'est rapidement militarisé et internationalisé et a fait plus de 310 000 morts en près de 6 ans. Pour terminer, le pape François a dénoncé aujourd'hui dans ses vœux au corps diplomatique la folie homicide du terrorisme djihadiste. Le souverain pontife a exhorté une nouvelle fois tous les responsables religieux à rappeler avec force qu'on ne peut jamais tuer au nom de Dieu. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Moi, je viens de là où...